Kiosque Magazine.
Bienvenue dans votre émission Kiosque Magazine sous le thème de la culture et des loisirs. Jennifer Vignery au micro, je suis en compagnie de Charles Roy. Salut Charles, j'espère
Bonjour.
Que ça va. Nous sommes le vendredi 27 mars et on a un beau programme aujourd'hui à vous proposer. De quoi est-ce que tu vas nous parler, Charles?
Ben, je vous parle de Louise Lecavalier qui encore danse à 56 ans, imaginez-vous. Mais je l'ai vue il y a 2 ans au FTA, là, vous devriez la voir. C'est incroyable, elle a encore super belle énergie. Puis non, vraiment, c'est tout à fait admirable. Je vous parle de Novecento, un monologue de Alessandro Barrico qui sera joué à Québec. Le Festival de cinéma du monde de Sherbrooke, qui commence très bientôt. Le Festival de la menterie, oui,
c'est
ou du mensonge, oui, pour toi. Autrement, je vous parle en art visuel de Vladimir Velikovic, cet artiste qui a été fortement influencé par la Deuxième Guerre mondiale, et aussi de Femme Expo, une exposition consacrée uniquement, faite par les femmes et au sujet des femmes.
Pour les femmes.
Oui, c'est ça.
OK. Eh bien, moi, en musique, je vais parler de l'album Azimut, un savoureux mélange de musique classique et de jazz. Et puis, on a beaucoup parlé du film de Cendrillon. Moi, c'est au théâtre que je vais vous emmener pour vous parler de sa demi-sœur. Il s'agit de Javotte. En spectacle encore, on parlera de Linda Sorghini qui va redonner vie à Judy Garland. Et en cinéma, 2 films, Danny Collins et le documentaire Le Nez. Le flûtiste François Richard lance demain Azimut, une fresque musicale aux couleurs classiques et jazz teintées de musique du monde. Anicet Lejeune nous en parle dans le journal Métro du 23 mars. Né de la rencontre de 3 musiciens, passionnés et chevronnés, le flûtiste québécois François Richard, le pianiste américain Marc Herzgovitz et le violoniste allemand Helmut Lipskit, Azimut se présente comme un album où chacun a laissé ses inspirations musicales s'exprimer. Tous azimuts, dans toutes les directions. C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'album. C'est de la musique jazz, mais il y a dans ce jazz-là des influences de musique du monde et du classique, explique François Richard. Jazz manouche, jazz latin, swing, balagrock, classique, jazz post-impressionniste, est un tableau musical où chacun des 3 musiciens applique ses couleurs. Après près de 3 ans à jouer ensemble, ils possédaient enfin le répertoire nécessaire pour faire un album. L'idée était d'amener nos compositions originales, d'y laisser des segments pour l'improvisation. Il fallait que ce soit un album qu'on ait du plaisir à jouer en concert et qui devait plaire au public. Accompagné sur 5 pièces par un quator à cordes, les instruments du trio sont pour le moins originaux pour une formation de jazz. Il fallait qu'on se démarque, lance le flûtiste. Il y a beaucoup de variétés sonores. En ajoutant des instruments qui percutent davantage, on aurait complètement modifié l'image de l'album. Nos instruments auraient perdu de leur force. Quant aux cordes, elles rendent la musique plus concrète et peut-être plus accessible. Doté d'une solide formation en musique classique, François Richard est un passionné, un virtuose de la flûte traversière. Le Québécois, qui comporte 10 albums à son actif, a fait ses classes auprès des plus grands. Il donne son premier concert à 13 ans et a depuis partagé son talent dans différentes salles de concert locales et internationales. Entre pratique, concert, composition et production, François Richard trouve encore du temps pour enseigner son art comme chargé de cours à l'UQAM. Et des projets, il en a encore plein la tête. « Je n'ai fait aucun disque classique, j'aimerais bien en faire un simplement pour montrer une autre facette. » Si l'autre formation de François Richard, Nouvel Orchestra, dont l'album Symbiose est sorti en 2014, il est en concert le 22 avril à l'Astral et le trio Richard Lipsky-Herzgovitz est le genre de groupe qu'on aimerait voir sur une scène extérieure au Festival Jazz cet été.
Oui, Louise Lecavalier, Le corps dans tous ses états, c'est ainsi que titre Daphné Bédard. Son article Dans le soleil s'est paru le 26 mars dernier. Et oui, c'est dans tous ses états. À Québec, quiconque a déjà vu danser Louise Le Cavalier sait à quel point elle est un phénomène. À l'époque de La 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 Human Steps, son corps réunissait des prouesses inimaginables. Aujourd'hui, à 56 ans, elle déborde encore d'énergie et d'idées créatrices. Un phénomène qu'on vous disait. Les vents sont aujourd'hui un peu moins intenses, mais tourbillonnent toujours. Louise Le Cavalier n'a pas chômé depuis son départ de La 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 Human Steps. De membre d'une compagnie dirigée de la main de maître par Locke, elle s'est retrouvée seule aux commandes au tournant des années 2000. « J'avais une bonne dose de naïveté », raconte-t-elle, un sourire dans la voix. « J'ai oublié un peu que la pression serait énorme. Le public était en effet curieux de voir comment la bête de scène allait se renouveler. » Il n'a pas été déçu. Le temps de donner naissance à des jumelles, Louise Le Cavalier était de retour sur les planches. Pour le spectacle So Blue, le spectacle qu'elle présente à Québec, elle décide de plonger tête première en se faisant confiance et en créant ses propres pièces. Sur la musique envoûtante du Turc Merkan Dede, le corps de Le Cavalier et son partenaire Frédéric Tavernini, se dévoilent dans tous leurs états. Sauvage, transcendé, abandonné, mutant. Créé en 2012, So Blue a déjà tourné dans plusieurs grandes villes comme Vienne, Toronto, Londres, Los Angeles et Vancouver. C'est un spectacle captivant, dit-on, achevé selon les critiques. Voici quelques mots de Louise Le Cavalier qui va pouvoir peut-être vous donner une idée, si vous ne la connaissez pas, de c'est qui. Alors, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait de Edward Locke. C'est la personne qui... C'est le chorégraphe qui l'a accompagnée dans ses débuts, puis dans une bonne partie de sa carrière. Elle a dit « Impossible de dire quelques mots sur lui, mais s'il le faut, la rencontre la plus importante de ma vie. Vos premiers pas en danse, la découverte d'un monde parallèle. » C'est sa réponse. un métier que vous auriez aimé exercer. Très difficile de m'imaginer dans un autre métier. Impossible de savoir. » Et où vous voyez-vous dans 10 ans? Je ne sais même pas où je serai dans 5 ans. Alors, Louise Le Cavalier qui vit son art au jour le jour.
Elle fait planer le mystère.
Exactement, oui. Bien, vous verrez son spectacle So Blue le 31 mars à 20h à la salle Louis Fréchette du Grand Théâtre à Québec. Pour information, le 418-643-8131.
Fais pas ça! Je serai sage comme une image. Alors pourquoi t'es pas gentil? C'est pas juste et moi, j'ai pas l'âge. Ça va me faire mal à la vie. C'est pas de ma faute à moi si je veux pas faire ça. Et toi, tu sais pourquoi ça se fait? Que le silence, ça fait du bruit. Tu m'as dit que c'est un secret, et moi j'ai fait pipi au lit. Papa, c'est toi qui es le plus fort. Touche pas à mon corps. Papa, c'est toi qui es le plus fort. S'il te plaît, moi ça me crie dedans ma tête. Me fais pas ça, me fais le pas. Quand tu viens me voir en cachette, touche pas là, que je comprends pas. C'est pas de ma faute à moi si je peux pas faire ça. Moi je voudrais bien me punir, mais quand tu viens puis que tu restes, ça fait trop mal et c'est trop pire. Je t'aime et puis je me déteste. C'est vrai, tu sais, je t'aime. Alors touche pas à mon corps. C'est vrai, tu sais, je t'aime. Alors fais pas ça. Fais pas ça. Pas les yeux là où ça fait mal, et les mains là où ça fait peur. Moi je sais pas si c'est normal quand c'est tout sale à l'intérieur. C'est pas de ma faute à moi si tu veux me faire ça. Mais quand tu regardes tout partout, c'est pas du jeu, pis t'as pas le droit. Je sais bien que c'est pas des vrais bisous. Et puis d'abord, c'est pas ta toi. Même que c'est vrai, même que d'abord, touche pas à mon corps. Même que c'est vrai, même que d'abord, s'il te plaît, fais pas ça, papa, t'arrêtes. Fais-le pas, moi je t'aime que toi. Alors, je le dis dans ma tête, ne reviens plus. Mais t'en vas pas, c'est pas de ma faute à moi. Si je veux pas faire ça. Et toi, tu sais pourquoi ça se fait? Pourquoi personne y peut le voir? Tu m'as dit que c'est un secret. Pourquoi personne y veut savoir? Papa, c'est toi qui es le plus fort. Touche pas à mon corps.
On vient d'entendre Agnès Bill, Touche pas à mon corps. Aujourd'hui, Jennifer, c'est la journée mondiale du théâtre et on s'en va en théâtre.
Exactement. Oui. Habitué de la scène principale du théâtre Denis Pelletier, il a remporté à 3 reprises le prix du public étudiant de la meilleure mise en scène, notamment pour Scrooge et 20 000 lieues sous les mers. Jean-Guy Legault travaille cette fois dans la petite salle Fred Barry. Il monte dès ce soir son adaptation du roman Javotte de Simon Bolris. C'est plus exactement Luc Boulanger qui nous en parle dans le journal La Presse du 25 mars. Nos univers sont fantaisistes et compatibles, dit Legault. Nous avons des affinités. Lorsque le collectif Les Casseroles m'ont approché pour créer un spectacle à partir du roman, j'ai tout de suite vu sa théâtralité. Et Simon m'a fait entièrement confiance pour l'adaptation. Javotte est une variation moderne et québécoise de Cendrillon, du point de vue de sa demi-sœur Javotte. Paru en 2012, le roman raconte, à travers le journal de la jeune fille au physique ingrat, une histoire qui ressemble au spleen de bien des adolescentes solitaires. Le personnage est décrit par l'équipe de production comme une anti-héroïne au grand pied qui navigue entre éveil sexuel, éveil pour ses semblables et goût pour le risque. « Simon a inventé une fable moderne », dit Legault. Les états d'âme de Javotte nous font réfléchir sur les notions de beauté et de superficialité en Occident. J'ai l'impression que la littérature nous montre souvent des personnages d'adolescents laissés pour compte sans leur attribuer de véritables nuances, poursuit-il. Javotte est un roman très dur, mais il y a aussi de la fantaisie, de la légèreté et de la naïveté dans le récit. Ce qui colle parfaitement à la vision artistique de Legault. Ce dernier estime que l'imaginaire et le réalisme, la magie et l'ordinaire peuvent cohabiter dans une même œuvre. Au plus profond de lui, l'humain est un mythomane. Pour survivre, il faut inventer, rêver et trouver une façon de fantasmer la réalité. Comme le personnage unique de Javotte, elle ne livre jamais un discours moralisateur. Elle constate tout simplement. Elle ne se plaint pas de la difficulté de son existence, ni de l'ingratitude de l'adolescence. Elle réagit. Javotte passe un instant de l'amour à la haine, de l'émerveillement au désenchantement. Simon Bolris expose sans censure la méchanceté qui sommeille en nous tous. Pour le rôle principal, Legault a auditionné plusieurs comédiennes, car il fallait trouver une jeune actrice à la fois talentueuse et qui s'approche du personnage décrit dans les moindres détails dans le roman. Il a trouvé Gabrielle Côté, de l'accord 2014 de l'École nationale. Le metteur en scène a aussi conservé des personnages de l'entourage proche de Javotte, sa sœur Anastasie, sa rivale à l'école, la belle Caroline, et son fantasme, l'athlétique Luc, son amant Stéphane, joué par Larche. Legault a tout de suite rejeté le monologue scénique afin de donner vie aux autres personnages sur scène. Quand Javotte écrit, elle expose sa réalité selon son point de vue. Mais est-ce que la mère de Javotte est aussi méchante qu'elle l'a décrit ? Est-ce que Caroline est une jeune fille aussi superficielle que ça ? Probablement pas. Entre l'imaginaire et ce qui semble ancré dans la réalité, le spectateur pourra distinguer le vrai du faux. Au fond, conclut Legault, nous ressemblons peut-être plus à Javotte qu'on le pense. Sa plus grande tragédie est simplement de vouloir être unique comme nous tous. Donc effectivement, on peut aller voir Javotte. Ça commence aujourd'hui, c'est à la salle Fred Perry, je le rappelle, Fred Barry, oui. Pardon, et c'est jusqu'au 11 avril.
Merci Jennifer. Alessandro Barrico, sûrement ce nom vous sonne une cloche à l'oreille. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il a écrit un monologue qui s'appelle Novecento, pianiste. Et Daphné Bédard, dans le soleil, nous parle de ce spectacle qui est de passage à Québec. C'est un article publié le 25 mars dernier. Une traversée poétique et touchante. Voilà à quoi nous convie le théâtre premier acte avec la présentation de la pièce Novecento pianiste. À notre arrivée dans la salle, les danseuses sont suspendues au plafond par des harnais. Elles voguent tout doucement en silence. Notre traversée à bord du bateau de croisière Virginian vient de commencer. Novecento pianiste, c'est d'abord un texte fort, bouleversant. Celui écrit par l'auteur italien Alessandro Baricco. Il raconte l'histoire de Novecento, un enfant né au début du 20e siècle sur un bateau de croisière et qui grandit sur l'océan. Son bonheur, jouer du piano et laisser ses doigts glisser doucement sur les touches. Sa rencontre avec le trompettiste Tim marque le début d'une longue amitié. « Tu n'es pas vraiment fichu tant qu'il te reste une histoire et quelqu'un à qui la raconter », dit un jour Novecento. C'est pourquoi Tim replonge dans ses souvenirs et nous raconte ses anxiétés aux côtés du jeune homme Novecento. Ingéniosité. Le comédien Martin Lebrun incarne un Tim sensible et au ton posé. Simon Despaux est solide en Novecento et dans tous les personnages qu'il interprète. Sur scène avec eux, deux comédiennes danseuses, Karine Chiasson et Jacinthe Gilbert, ajoutent du mouvement à la pièce et sont intégrées de belle façon à l'ensemble. La scène de la tempête met particulièrement en valeur l'interaction des comédiens. Et la belle musique d'Olivier Leclerc, essentielle au récit, vient lier le tout et ajoute de l'âme à la pièce. Novecento pianiste est présenté jusqu'au 4 avril au théâtre Premier Acte.
Et demain, que feras-tu de ta vie? Des forêts et des jardins de ta vie. Moi, je ne demande rien de ta vie, que de la vivre avec toi. Partager chaque saison de ton cœur, être seul à l'horizon de ton cœur, et la rime sans raison de ton cœur. Quel bonheur si c'était moi. Je veux trouver ta main pour traverser la nuit, pour effacer les lendemains de pluie, et quand s'éteint la flamme d'une année de plus, vivre encore la plus belle année que nous ayons. Tant de joie sont à venir dans tes yeux, tant de fleurs dans le sourire de tes yeux, que je voudrais m'endormir dans tes yeux et m'éveiller chaque jour. Je n'aurai qu'une lumière.
On vient d'entendre Stacy Kent, Que feras-tu de ta vie? On vous promet en deuxième partie de la musique qui bouge plus.
Un petit peu plus vivante, oui, c'est promis.
Jennifer, on reste en théâtre.
Exactement. Linda Sorghini redonne vie à l'actrice américaine Julie Garland dans le spectacle Julie Garland, la fin d'une étoile, qui tiendra l'affiche du 8 avril au 16 mai au théâtre Jean Duceppe à Montréal. L'agence QMI nous fait un article dans le journal du 24 heures de ce jeudi 26 mars. La comédienne, qu'on peut voir dans le téléroman « Au secours » de Béatrice, a proposé mercredi aux médias quelques extraits musicaux de cette production de Peter Kinter qui est mise en scène par Michel Poirier. C'est Michel Dumont qui a adapté le texte en français. Linda Sorghini n'est pas seule sur scène. Sa Julie Garland est accompagnée de son fidèle pianiste Anthony, joué par Roger Larue, et de son dernier mari, Mickey Deans, joué par Éric Robidoux. Les trois protagonistes nous font plonger dans le Londres de 1968, alors que Judy Garland revient sur les planches malgré des problèmes de consommation de barbiturique de plus en plus sérieux. C'est d'ailleurs ce qui causera sa perte l'année suivante, à l'âge de 47 ans. Malgré cela, l'artiste oscarisée pour le Magicien d'Oz en 1940 voulait donner le meilleur d'elle-même pour satisfaire ses admirateurs. Le spectacle de Julie Garland, La fin d'une étoile, joue ainsi sur deux facettes de la fin de sa vie, montrant d'un côté sa force et sa volonté d'aller jusqu'au bout et de l'autre sa grande vulnérabilité. Excusez-moi. Donc je répète, c'est Linda Sorghini qui va jouer ça au théâtre.
Du 8 au 12 avril prochain se déroulera la deuxième édition du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, qui regroupe 51 longs-métrages de fiction, 17 longs-métrages documentaires, 30 courts-métrages ainsi qu'une dizaine d'événements, le tout mettant en valeur une trentaine de pays. C'est Julie Ledoux dans le journal Voir qui a publié cet article le 20 mars. Festival du Cinéma du Monde, Turquie, Italie et Mexique à l'honneur. Déployés à la Maison du cinéma, des projections débats, conférences, expositions et activités inédites seront également proposées au public dans de nouveaux lieux de diffusion, soit le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, la salle Le Tremplin, la Société d'histoire de Sherbrooke, Bishop's University et le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Dévoilé il y a quelques jours, le film d'ouverture du festival sera La famille Bélier d'Éric L'Artigo, une comédie dramatique présentée en première nord-américaine, donc le 8 avril. Le festival se terminera par la présentation du film Les Merveilles d'Alice Runchwatcher, récipiendaire du Grand Prix au Festival de Cannes 2014. Pour sa deuxième édition, le festival sera l'hôte d'une compétition internationale en plus de la compétition régionale. Du côté des documentaires, tous ceux qui sont présentés en projection régulière au festival seront en compétition pour le Cercle d'or. Ce sont les prix qui sont remis lors de ce festival-là. Donc, le Cercle d'or meilleur documentaire. Cette année, il sera entre autres possible de découvrir les documentaires Le sel de la terre. Il y a aussi 20,000 Days on Earth. Merci, j'en ai plus d'autres à dire en anglais. Donc, il y aura plein d'autres documentaires présentés à ce festival-là. Et c'est ça, il y a la Turquie, l'Italie et le Mexique qui seront à l'honneur cette année. Du côté de la Turquie, ce seront 100 ans de son cinéma qui seront célébrés en grand. En Italie, c'est la collaboration avec l'Institut italien de culture de Montréal qui offre une programmation spéciale. Enfin, le Mexique sera présenté sous l'angle cinématographique avec l'aide du Consulat général du Mexique à Montréal. Vous pouvez découvrir la programmation complète sur le fcms.ca. Thank you.
avant de nous aller, de nous en aller en pause, on a des petites brèves à vous dire. Mm-hmm. Donc justement, depuis mardi, je pense qu'on a tous vu le film Intouchables.
Oui,
et
oui.
Depuis mardi, c'est au théâtre du Rideau Vert. La grande première y était. Et ça met en vedette Antoine Bertrand et Luc Guérin. Tirés de faits vécus et adaptés au grand écran, l'histoire raconte la rencontre improbable entre un richissime Philippe tétraplégique à la suite d'un accident et Louis, un jeune voyou de mauvais goût. Vous pouvez aller voir ça, c'est au théâtre du Rideau Vert.
Le peintre verrier Jean Beaulieu, bien connu pour son œuvre de réinsertion des jeunes de la rue par la création de vitraux, revient à la charge avec un tout nouveau projet. Cette fois, c'est la création de cartes haut de gamme taillées au laser aux allures de vitraux qui lui permettra de poursuivre sa mission. Son expérience passée démontre sans l'ombre d'un doute l'efficacité des plateaux de travail, des plateaux de travail à connotation artisanale pour favoriser l'intégration des personnes en situation de rue dans un marché de travail adapté. La corporation de l'amphithéâtre de Trois-Rivières, de même que le centre funéraire Rousseau, mettront les cartes en vente dans leurs établissements et les profits seront versés à l'œuvre Jean Beaulieu. Juste en terminant, les villes de Limoges, de Vancouver ont manifesté leur intention de mettre en œuvre des projets identiques, comme quoi ça l'a inspiré. Et M. Beaulieu indique que les cartes en question peuvent aussi être achetées par des organismes en vue de la tenue des levées de fonds. Il vise notamment les établissements scolaires et estime que ces cartes sont plus faciles à vendre que des oranges. Donc, à suivre dans un organisme près de chez vous. On se laisse le temps d'une courte pause.
À tout de suite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et nous voici pour la deuxième partie de l'émission. Alors Charles, tu m'as dit quelque chose en antenne. Là, je voudrais que tu partages ça avec les auditeurs parce que j'étais un petit peu étonnée.
Bien, je disais que demain, ça va être l'anniversaire de ma copine et moi. On fête nos 77 ans de mariage et on va fêter ça. On va faire du bungee, mais sans corde. En fait, c'est une toute petite corde, puis elle va se rompre à la toute dernière minute.
Et vous allez planer comme ça?
Oui, exactement. Ensuite, il y a un envol, puis on va s'en aller vers le lointain.
Mais qu'est-ce que tu nous racontes, là?
Je crois pas que je serais très bon pour le Festival de la menterie de Québec. Mais en tout cas, les menteurs se donnent rendez-vous dès aujourd'hui jusqu'au 29 mars, donc jusqu'à dimanche. Les journalistes sont habitués aux demi-vérités et aux omissions, aux mensonges à blanc, à se faire mener en bateau même. Mais comment se fier aux propos de son interlocutrice alors qu'elle est la reine des menteuses? C'est la question que se pose Éric Moreau dans Le Soleil, qui a interviewé la personne qui organise ce festival-là. En fait, ce n'est pas la première édition de ce festival. Et dans le fond, c'est un... Excusez-moi, je vais m'interrompre. Là, je vais vous le dire, c'est un texte paru dans Le Soleil. Le 23 mars dernier, les menteurs se donnent rendez-vous à Québec. Et ce sera présenté pour la première fois dans une salle de spectacle, parce qu'avant, c'était dans un bar. Mais là, l'événement a pris de l'ampleur.
C'est ça, oui, il y a plus en plus de monde.
Exactement.
Plus en plus de menteurs, c'est ça que ça veut dire?
Exactement, oui, c'est ça. C'est pas tout à fait rassurant. L'événement existe depuis 5 ans. C'est la première fois qu'on passe une fin de semaine à s'en beurrer épais, explique Yolaine, conteuse et organisatrice de ce happening. 10 conteurs s'affronteront dans ces journées de contes, des concours de menterie et autres fausses chroniques pour gagner le trophée du meilleur menteur décerné par les juges et le public. Les politiciens sont écartés d'emblée pour course de dopage. Le coup d'envoi sera donné vendredi à 20h dans la salle de la galerie d'art Baron Lafrenière. C'est au 66 rue Soult au Marleau. Yolaine ne s'en cache pas. Une telle activité peut servir à démystifier les performances du conteur. Ça permet d'aborder la chose de façon plus légère, mais sans que ce soit strictement un spectacle d'humour, ce qui démontre leur capacité à capter un public et à interagir avec ceux-ci. On s'en doute, les athlètes du mensonge se laissent une bonne marge à des degrés divers pour nourrir des réactions. Contrairement au théâtre, il n'y a pas de quatrième mur. Donc, les juges choisissent les 4 meilleurs fabuleurs lors des demi-finales qui se dérouleront samedi et dimanche en après-midi. Ceux-ci auront une carte blanche pour la soirée de clôture dimanche soir qui couronnera le maître menteur. On les récompense en les faisant travailler plus, rigole Yolène. En passant, j'espère que vous n'avez pas cru qu'on vous révélait réellement toute la vérité sur la menterie. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site web lesamisimaginaires.ca. Et fait intéressant, le festival se déroule depuis une quarantaine d'années ailleurs dans le monde. Et son vote répond à un rituel du 18e siècle. Chaque académicien, donc ceux qui vont voter, sont munis d'une salière et d'une cuillère en bois et versent 2 à 10 cuillères de sel en fonction de sa perception de la menterie. Le sel recueilli est remis aux ingénieurs des poids et mesures pour la peser. Celui qui récolte le plus de poids de sel est sacré roi des menteries. Ben, ce n'est pas une menterie. Ce festival, donc, est là pour durer jusqu'à dimanche.
C'est original.
Queen of the jungle, but don't live in a bungle. Wet my clothes, my elogues, I brush my fangs off. Hogs, there ain't a beast in the east that wants to make me his feast. Cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on. I'm hunting found to dot to dot. Leaving cheers in everybody's lawn. Spinning free when a single lazy yarn. I'm roaming on and on and on. I'm hunting found to dot to dot. Cheers in everybody's lap. Spinning free when a single lady. My game, my game, my route. My favorite, hey, my score. My game, you'll find, you'll find. My scenes, my moves, my raving. Hey, my crimes, outroaring rhymes. Reading names on my face, yeah. I'm pacing the race, yeah. Sip a taste on my cheese, cause just in case you miss.
On vient d'entendre My Game de l'artiste Deluxe. On s'en va au cinéma et qu'est-ce qui se passerait si jamais Je recevais 40 ans plus tard une lettre égarée en mon nom et c'était signé John Lennon.
Justement, c'est la thématique du film d'Annie Collins qui est réalisé par Dan Fogelman qui raconte ce qui se produit quand une vedette de rock vieillissante trouve 40 ans plus tard une lettre effectivement que lui a envoyée John Lennon. Wow. C'est en salle, ça va être en salle à partir du 3 avril et c'est Isabelle Hondberry qui nous en parle dans le journal du 24 heures d'aujourd'hui. Le film est d'une certaine manière basé sur une histoire vraie, a dit en riant Dan Fogelman lors de la conférence de presse de présentation de son film qui s'est tenu à Los Angeles la semaine dernière. Car la genèse de ce long métrage est tout à fait particulière. Danny Collins est né alors que l'auteur d'Un amour fou était devant l'écran de son ordinateur en train d'essayer d'écrire son prochain film. Le point de départ du long métrage est totalement véridique. Je suis tombée sur l'une de ces nouvelles bizarres, de celles avec un titre super accrocheur qu'on s'empresse de lire. C'était quelque chose du genre, un chanteur reçoit une lettre de John Lennon 40 ans trop tard, j'en ai immédiatement acheté les droits et j'ai écrit le scénario en une semaine. Dans la vraie vie, c'est Steve Tilston, un chanteur de folk britannique, à qui cette histoire incroyable est arrivée. Par contre, sous la plume de Dan Fogelman, le héros s'est transformé en Danny Collins, chanteur de rock sur le retour, dont le succès est toujours en tête des palmarès et qui vit avec une jeune femme jouée par Katharina Cass de plusieurs décennies sa cadette. Frank Grunman, le gérant de cette vedette mondialement connue, arrive un jour avec une lettre écrite par John Lennon, l'idole de Danny, envoyée 40 ans plus tôt et perdue dans les affaires d'un journaliste peu scrupuleux et d'un collectionneur. La missive est une injonction à Danny de rester fidèle à lui-même et est assortie d'une invitation à appeler l'ex-Beatles pour discuter. Du coup, ce message a l'effet d'un électrochoc sur Danny, qui décide de traverser le pays pour finalement faire la connaissance de Tom, le fils qu'il a eu avec une groupie. Oui, j'ai vraiment écrit le scénario en pensant à Al Pacino, a précisé le cinéaste. Et en plus, je l'ai écrit en intégrant toutes les chansons de John Lennon, sans jamais penser au fait qu'il serait impossible, en raison du montant des droits d'auteur, de les utiliser. Quand on réalise un film, au moment du montage, on utilise n'importe quelle pièce musicale puisqu'on est le seul devant sa table de montage et qu'on ne monte le film qu'à sa femme ou à des amis. On essaye par contre de ne pas trop le faire afin de ne pas s'attacher à des chansons qu'on n'a aucune chance de pouvoir utiliser. Pourtant, c'est ce que j'ai fait en incluant les 11 chansons de John Lennon. J'imagine que Yoko Ono a compris en voyant le film qu'il s'agissait d'une lettre d'amour à John. Elle a travaillé avec nous et j'ai finalement reçu un appel me disant que je pouvais utiliser toutes les pièces, ce que je n'aurais jamais imaginé pu faire, a raconté Dan Fogelman. Danny Collins, à partir du 3 avril au cinéma.
Vladimir Velikovic, peintre et dessinateur français d'origine serbe dont l'œuvre figurative se démarque par sa violence, sa noirceur, sans concession et son extraordinaire virtuosité, expose pour la première fois au Canada dans le bel écrin du 17000 La Poste à Montréal. Une quinzaine de tableaux, dont plusieurs de très grandes dimensions, jusqu'à 5 mètres de largeur par 3 de hauteur, autant de grands dessins, une douzaine de collages et quelques sculptures réalisées entre 2002 et aujourd'hui permettront aux visiteurs d'apprécier la production récente de cet artiste de réputation internationale, âgé de 79 ans, toujours inspiré et prolifique. L'artiste voit, peint et dessine la vie en noir. Son enfance sous les bombardements nazis à Belgrade, Belgrade, durant la Deuxième Guerre mondiale, avec ses cortèges de pendus au réverbère et des cadavres mutilés dans les rues, marquera à jamais son œuvre à venir. L'œuvre puissante de Velkovic est inexorablement noire, à la limite du supportable. Elle peut séduire et envoûter par sa démesure, sa lucidité et sa grandeur tragique, mais aussi agresser. Elle peut aussi offenser ou même rebuter du fait de ses corps torturés, de ses visions dantesques et de ses mises en scène brutales d'atrocités. En entrevue au Devoir, l'artiste dit vouloir secouer l'indifférence du spectateur devant l'horreur de la guerre et l'éruption quotidienne de la violence. Ma peinture a un côté dénonciation. Ce n'est pas une apogée de la violence, mais un constat de l'état du monde. Et je me sens une obligation de réagir à ce qui se passe, que ce soit à Srebrenica ou dans la Yougoslavie agonisante des années 90, ou à Abu Ghraib ou à Alep aujourd'hui. Ces œuvres, jamais anecdotiques, témoignent de la pertinence de la permanence de la barbarie. Et si les dessins et les collages assemblent un peu un chaos... excusez-moi, j'ai eu de la misère à lire ma ligne. Je recommence. Et si les dessins et les collages, assemblages un peu chaotiques de tous les motifs de l'artiste, sont moins dérangeants que ces tableaux, ils se révèlent tout aussi intrigants. La présentation de l'exposition est attrayante et plutôt réussie compte tenu de la contrainte imposée par les grandes dimensions de certains tableaux. Le recul nécessaire à l'observation des grandes toiles est plutôt satisfaisant. Et en vous rendant au 1700 de la Poste, préparez-vous donc à vivre une expérience stimulante mais troublante, une plongée dans le noir, dans une nuit émaillée d'inquiétudes, de lueurs rougissantes, comme des éclairs striant le néant. Cette exposition, donc, c'est sur la rue Notre-Dame-Ouest à Montréal, le 17 000, du 21 mars au 21 juin.
C'est un voyage olfactif à travers le Maroc, la France et l'Italie que propose le réalisateur de Rebelles nommé aux Oscars. En personnage central, dont l'histoire sert de fil d'Ariane, celle de la journaliste américaine Molly Birnbaum, qui a perdu l'odorat à la suite d'un accident. Lors de son parcours, Kim Nguyen, le réalisateur, rencontre des spécialistes de ce sens, sans lequel le goût n'existe qu'à un niveau de base. Ici, il parle avec le sommelier François Chartier, le documentaire ayant d'ailleurs comme point de départ son ouvrage « Papilles et molécules ». Là, il s'entretient avec l'astronaute Chris Aldiff et lui demande quelle odeur a l'espace. Et ce transporteur de truffes, Franco Canta, qui, petit, avait honte de manger dans la cour d'école un sandwich aux truffes, au lieu du traditionnel croissant, raconte qu'il se promène avec un flingue dans sa veste, histoire de protéger sa précieuse cargaison. Mais le clou du film, le nez, qui dure un bien trop rapide 84 minutes, c'est sans conteste l'interview d'un certain Guy de Lansen. Le nom ne vous dit probablement rien, mais le monsieur a développé un parfum appelé Vulva Original, dont le nom suffit amplement à trahir la composition, et avec son humour d'une intelligence redoutable, s'amuse ensuite à le faire tester par François Chartier. Vous l'avez compris, le nez titille non seulement les narines, mais les neurones, par les témoignages et les explications que Kim Nguyen génère. Le cinéaste part également à la rencontre d'olfactothérapeutes, des spécialistes dont le travail est de faire retrouver la mémoire à leurs patients en générant les souvenirs grâce aux odeurs. Car c'est là le noyau du documentaire, le fait que, et n'en déplaise à Proust et sa Madeleine, la clé de nos souvenirs les plus précieux et de nos émotions les plus vives est dans notre nez.
Corre pelo certo. Ah, mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu?
Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinhos. O bagulho é louco, solta de racha. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer branca? Todo azulê requer seu rejunte. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui, patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte, fi. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem, eu aprendi. Te vai pra bater de front e Babylon cair. As crianças daqui tão de HK, levando um sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Na garagem um golfe, bonitão na praia de Hornet, fi. É tudo isso tem, o apetite vai pra bater de front e Babylon cai. As crianças daqui tão de HK, leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir. E sensa que patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer.
Acostumado com os trilhos do pato, né, ué?
D'écouter Subirus Doistiosin. Je crois que je l'ai bien prononcé. Je me suis entraînée pendant toute la chanson. C'était criollo. Charles, je crois que tu vas nous parler des femmes.
Mais c'est bien ça, des femmes et des œuvres. De Benoît Sabourin, dans Le Droit, nous en parle. Ça est paru le 7 mars dernier. C'est pour une 7e année que le Cercle d'action culturelle, le CAC de la MRC Papineau, à Saint-André-Avelin, se métamorphose en véritable vitrine collective pour 47 femmes artistes de l'Outaouais, du Québec et de l'Est ontarien. Avec le week-end de la Journée internationale de la femme comme toile de fond en début mars, la mouture 2015 de Femmes Expo, c'est comme ça que s'appelle l'exposition, Femmes Expo, a pris son envol. Sous la thématique « Corps et territoire » inspirée du thème de la Marche mondiale des femmes 2015, des dames en provenance de la Petite Nation, d'Alfred, de Lac-Mégantic, de Laval et d'Amos, entre autres, ont accepté de livrer leurs états d'âme pour l'occasion. Peinture, sculpture, dessin, photographie, art textile, estampes numériques, une quarantaine d'œuvres ornera les murs du centre jusqu'au 19 avril. Chaque année, on donne un fil conducteur aux femmes, mais on ne veut pas que ce soit trop restrictif. On voit 47 personnes différentes qui ont interprété le thème à leur façon. Certaines l'ont pris au sens propre avec leur corps, avec le corps de la femme. D'autres y sont allées de façon plus abstraite, plus au niveau de l'intériorité, explique la directrice générale du CAC à propos de la thématique. Paulette Lalande, qui est la présidente d'honneur de l'événement, n'a pas hésité pour accepter le titre parce que Femmes Expo n'est pas seulement un happening d'art visuel, mais aussi une occasion pour mettre une fois par année sous les projecteurs l'avancée des femmes dans la société et la quête de l'égalité entre les sexes. Madame Lalande reconnaît que la condition des femmes a progressé depuis les dernières décennies. Cependant, le mot d'ordre demeure continuellement le même. Il y a encore du travail à faire. Cette exposition est donc jusqu'au 19 avril au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. C'est à Saint-André-d'Avelin, ça c'est au nord de Papineauville. Renseignements 819-983-2027.
Alors Charles, tu nous parlais des femmes, et bien là justement, il y en a cinq qui s'expriment sur le sujet de la procréation. Chaque opinion porte un regard différent sur le désir d'avoir un enfant. Certaines voient la maternité comme un passage obligé chez la femme, et d'autres se sentent accomplies sans devenir mère. Ça débute ce soir à 20h aux Écuries.
À Québec, le Festival de films de Portneuf sur l'environnement, le FFPE, prend lieu du 16 au 26 avril. Il pourra compter sur une invitée de marque pour sa 12e prestation, Mylène Paquette, celle qui a traversé l'océan d'un bout à l'autre avec l'aide de rames. C'est assez exceptionnel, à chaque fois j'y repense. La navigatrice participera au traditionnel ciné-souper animé par la marraine du festival, Geneviève Bilodeau. La compétition propose 32 films provenant de 3 continents, rassemblés en 7 blocs de projection. Ces documentaires, fiction et animation abordent les thèmes de l'agriculture urbaine, l'impact de nos choix alimentaires sur l'environnement, nos racines autochtones, la beauté de la nature, etc. Des projections en présence de réalisateurs et de différentes activités seront aussi au menu. La programmation détaillée se trouve sur leur site web, mais je vous promets que je vous en parle plus en détail dans une autre édition de Kiosque Magazine. Entre-temps, si vous voulez visiter, c'est le ffpe.ca.
Zoé Duchesne a parcouru le monde en tant que top modèle international. Amoureuse des caméras, elle tente sa chance comme actrice, mais elle se rend rapidement compte des montagnes à surmonter pour vivre de sa passion. De là a émergé l'idée de créer l'exposition Poupée, une démarche artistique qui réunit des autoportraits en série, cinéma et photographie. C'est jusqu'au 19 avril prochain à l'Arsenal.
Le plus haut clocher de Montréal est menacé. La paroisse Sainte-Madeleine d'Outremont a lancé une campagne de financement pour sauver le clocher de l'église. Le bâtiment connaît plusieurs problèmes de dégradation et d'infiltration d'eau qui menacent les vitraux et les rosaces du clocher. Ce clocher est le plus haut de Montréal et l'église fait partie du patrimoine culturel et social d'Outremont depuis des décennies. Environ 200 000 $ ont été recueillis depuis le début de la campagne, mais on évalue que les travaux s'élèvent à plus d'un demi-million de dollars.
On vous propose une foire culinaire complètement sucre. En effet, 15 restaurants des promenades Hochelaga Maisonneuve participent à la foire culinaire et vous invitent à goûter aux bouchées gastronomiques à seulement 2 dollars. Musique traditionnelle et produits de l'érable sont au rendez-vous. Ça débute demain à midi au Parc Morgan.
La Société de développement des périodiques culturels québécois et la BANQ proposent actuellement une exposition virtuelle regroupant une sélection d'une centaine de couvertures de magazines culturels publiées au cours des 50 dernières années. Culture à la une, c'est comme ça qu'on pourrait définir cette exposition qui s'intitule le printemps des revues. C'est la 5e édition et ce n'est pas seulement virtuel. Vous pourrez, dans 109 bibliothèques publiques au Québec, admirer cette exposition du 26 mars au 19 avril. Aussi, dans certaines de ces bibliothèques-là, Vous pourrez assister en marge de cette exposition. Les revues vous recommandent une sélection de livres jugés remarquables par les rédacteurs des revues. Ce sont 80 coups de cœur littéraires qui seront exposés, que vous pourrez feuilleter.
Stéphane Fallu est un bon deuxième. En effet, l'humoriste qui a atteint maintenant la quarantaine nous parle de cette nouvelle période de sa vie. Il partage des réflexions sur son avenir, son passé et croit en fait qu'il a toujours été un bon deuxième. Ça débute ce soir à 20h au Théâtre Saint-Denis 2. Je pense qu'on va clôturer l'émission parce qu'en fait c'est l'heure, oui, le temps passe vraiment très vite. Merci Charles, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Rémi en régie pour toutes les musiques. Et puis nous on se retrouve vendredi prochain.
Non, vendredi prochain, il n'y a pas de radio,
effectivement, et oui, parce que c'est férié, c'est ça.
Voilà.
Alors vendredi dans 2 semaines, voilà.
Oui, à bientôt.
Très bonne fin de semaine.